La maison de l'investisseur, l'émission qui vous explique comment développer votre patrimoine immobilier avec Stéphane Descartiers, président fondateur de la maison de l'investisseur sur Radio Immo.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Immo. Nous sommes ensemble pour le rendez-vous de la Maison de l'Investisseur avec notre chef d'orchestre Stéphane Descartiers, fondateur de l'entreprise éponyme La Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane.
Bonjour Charlotte.
Eh bien écoutez, je vous retrouve avec plaisir comme chaque quatrième mercredi du mois à 10h. Merci d'être matinaux et de passer ce moment en notre compagnie. On va faire notre focus investissement habituel. Cher Stéphane, quelle est notre devinette du mois ? On s'intéresse à quoi aujourd'hui ?
Alors au gestionnaire locatif, est-ce qu'il faut prendre un gestionnaire ou est-ce qu'il faut se débrouiller soi-même pour gérer ses biens ? C'est une grande question.
Eh bien, écoutez, je suis ravie de participer à cette émission. J'aimerais en savoir un peu plus, justement, sur le fait de prendre ou non un gestionnaire. Est-ce que ça vaut le coup ? On se retrouve juste après ça pour en parler. Jingle.
La maison de l'investisseur, la devinette du mois.
Alors, on est toujours dans cette émission sur une balance avantage-risque. Et l'idée, ça va être de savoir un petit peu aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup ou pas de dépenser de l'argent, de faire des frais pour faire gérer son bien ? Est-ce que le gain de temps vaut le coup ? Ça va être le sujet qui va nous animer durant cette émission. Alors, en général, on peut dire qu'on a à peu près 50%, je crois, pouvoir dire sans me tromper, qu'on a 50% du parc locatif qui est géré par un professionnel. Donc en gros, aujourd'hui, je dirais qu'en France, on est à moite-moite.
Ouais, c'est même un peu moins, je crois. Hein. Je crois que c'était, enfin, la dernière fois que j'avais eu le chiffre, c'était de l'ordre de 40%, il me semblait, mais enfin, peu importe. Mais c'est pas la majorité. Effectivement, aujourd'hui, on a encore, ce qui peut paraître assez incroyable vu la complexité, on a encore plus de la moitié des bailleurs qui se débrouillent eux-mêmes pour gérer leurs biens.
Alors, je crois pouvoir dire, sans me tromper également, que à la base, les agences immobilières faisaient vraiment principalement de la transaction et que suite à la crise des subprimes en 2008, ils se sont rendus compte que finalement, faire de la gestion, ça assurait quand même des revenus pérennes
et récurrents.
Et que du coup, ça fait, je dirais, un peu plus d'une dizaine d'années qu'on a eu des grosses campagnes de pub, et je pense notamment à un gros acteur du secteur comme Foncia.
Ouais, Foncia, qui a fait Citia,
voilà,
etc. Ouais.
Qui a fait des grosses campagnes pour la gestion locative, pour récupérer des biens. Donc c'est peut-être des choses qui se sont mises en place assez récemment, finalement.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a même des professionnels qui militent pour une obligation de passer aussi par un gestionnaire pour effectivement donc peut-être pacifier un petit peu et réguler un petit peu mieux les rapports locatifs. Donc on a même des groupes immobiliers qui poussent pour rendre obligatoire en fin de compte l'administrateur de biens, enfin, en tout cas le gestionnaire. Donc on verra comment ça se passe, mais enfin pour l'instant effectivement c'est une option que les bailleurs peuvent prendre ou pas.
C'est pas forcément idiot, en même temps c'est vrai que c'est un métier, on va le découvrir. Ça devient de plus en plus complexe matière.
Oui, carrément. Alors, complexe.
Ma première question, toute simple, j'ai un bien, j'ai investi. Qu'est-ce qui peut me pousser éventuellement à le garder ou le confier en gestion ?
Alors déjà, est-ce que vous êtes sur place ? Est-ce que le bien est sur place ? Est-ce que vous êtes à moins d'une heure de transport, de voiture, etc. ? Bon, parce que sinon, on se pose même pas la question. Hein, si on doit effectivement à chaque fois prendre un TGV, aller à l'autre bout de la France pour gérer une chasse d'eau qui fuit, bon, bah, c'est effectivement quand même un peu complexe. Donc, si on n'est pas sur place, on se pose pas la question, on prend un gestionnaire. Parce que de toute façon, là, ça, on n'a pas le choix. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez du temps ? Parce que le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Mais voilà. Est-ce qu'on peut... Alors, le temps, c'est pas forcément ultra chronophage, mais ça peut être... On peut avoir, sur un temps donné, quand même besoin d'agir vite. Hein. Par exemple, moi, j'ai, sur un appartement...
Un dégât des eaux.
Voilà, j'ai eu un cumulus qui a explosé dans un appartement que je donne en location, mais qui était entre deux locataires. Bon, bah, il a fallu que j'y passe X fois pour l'expert, pour le machin, le début des travaux, etc. Bon. Donc voilà. Est-ce que vous avez du temps et surtout, au-delà du temps, est-ce que vous êtes maître de votre planning? Est-ce que vous pouvez partir d'un seul coup pendant 2 heures, pendant 3 heures, etc. Bon. Donc, Ça, c'est voilà. Est-ce qu'on est sur place? Est-ce qu'on a du temps? Et le troisième élément, c'est est-ce que vous aimez la paperasse? Est-ce que vous êtes abonné à toutes les revues de vulgarisation de l'immobilier, de gestion de patrimoine immobilier, etc. Parce que vous le disiez, et c'est un doux euphémisme, c'est incroyablement compliqué, ça change tout le temps. Aujourd'hui, rien que pour un bail, il faut, même pour un bail étudiant de 9 mois, il faut prévenir votre locataire des risques telluriques du secteur, des tremblements de terre, c'est kafkaïen, hein, on le sait, et chaque année qui passe, on en rajoute, bientôt un permis de louer, bientôt tout ce qui est effectivement passoire énergétique, on n'aura plus le droit de les louer, donc c'est incroyablement complexe.
Et puis il y a quand même beaucoup d'associations du secteur aujourd'hui qui défendent les locataires. Les locataires sont en connaissance de leurs droits, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ou 30 ans, où on louait un appartement de la main à la main. Aujourd'hui, si vous ne faites pas les choses dans les règles, on va venir vous chercher possiblement.
Bien sûr, les locataires sont de plus en plus informés avec les associations, avec Internet, etc. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information, donc on ne peut pas effectivement faire n'importe quoi. Mais juste, par exemple, les réévaluations de loyer, vous savez, chaque année, enfin, tous les trois ans, le loyer évolue un petit peu par rapport à l'indice. Les particuliers tout seuls l'oublient quasiment à chaque fois de le faire. Bon, le gestionnaire, il ne va pas oublier. Mais je crois que ce qui est important également par rapport à un gestionnaire, c'est la responsabilité qu'il a vis-à-vis d'un locataire.
Là. Ah, alors moi, je suis propriétaire. Oui. Le gestionnaire, il va assurer une espèce d'écran de responsabilité entre moi et mon locataire.
Oui, tout à fait.
C'est quoi exactement ? Il va faire quoi ?
Alors, par exemple, un exemple que j'ai vu 100 fois sur la responsabilité que peut avoir un gestionnaire. Pour les, je crois qu'on est à plus de 400 000 investisseurs qui ont fait du Besson, du Robien, du Cellier, du Duflot et aujourd'hui du Pinel. Vous savez que pour tous ces mécanismes, il faut respecter des plafonds de loyer.
Tout à fait.
Et il faut respecter des plafonds de ressources pour les locataires. Eh bien, toutes les lois que je vous ai citées, ce n'est pas les mêmes plafonds. Hein, parce que ce serait trop simple. Voilà, c'est trop simple. Et même pour certaines lois, suivant le moment dans l'année où vous avez réalisé votre opération, c'est-à-dire si c'était début 2004 ou fin 2004, ne sont pas non plus ni les mêmes plafonds de ressources pour les locataires, ni les mêmes plafonds de loyer. Donc, je peux vous dire que j'ai vu des dizaines de fois des administrateurs de biens, des gestionnaires se tromper. Parce que, effectivement, voilà, c'est tellement complexe, il y a tellement de barèmes différents, il y a tellement de trucs à respecter que j'ai vu régulièrement des gestionnaires se tromper.
Alors, si le gestionnaire se trompe, on imagine le particulier.
Alors, voilà, les particuliers qui se trompent, ça, c'est des centaines par an. Mais le problème, c'est que si vous dépassez d'un euro les plafonds de loyer, ou si votre locataire dépasse d'un euro les plafonds de ressources,
vous avez plus de dispositifs de
défiscalisation. Toutes les économies d'impôts que vous avez eues. Attention, parce que si ça arrive la 8e ou 9e année, vous devez rembourser tout de suite, sans délai, 20 000, 25 000, 30 000 euros d'économie d'impôts que vous avez eu pendant la période. Donc vous imaginez un peu le truc.
C'est fou.
Alors voilà, donc un particulier, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a que les yeux pour pleurer. Tandis que, effectivement, le gestionnaire, déjà, il va moins se tromper, parce qu'il est quand même un peu plus au fait de tout ça.
Puis s'il se trompe, on peut lui taper sur les doigts.
Mais s'il se trompe, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je l'ai vu aussi ça X fois. Il fait marcher sa responsabilité civile professionnelle. Et le problème se règle. Et de toute façon, c'est un professionnel qui a fait une erreur avec un pauvre particulier en face. Donc là, il n'y a même pas de débat, on ne va même pas en procédure, le particulier est remboursé. Il doit quand même rembourser l'État parce qu'il s'est trompé, mais le gestionnaire va faire fonctionner sa responsabilité civile pour lui rembourser les économies d'impôts qu'il devra lui rembourser à l'État. Donc voilà, un exemple d'une responsabilité qui peut être effectivement engagée si le gestionnaire se trompe. Tout à fait.
Et vis-à-vis de mon locataire, si mon locataire, pour X ou Y raison, dégrade mon logement ou ne paye pas ses loyers, est-ce que le fait d'avoir un gestionnaire, ça m'assure est-ce que j'ai une garantie ?
Alors, vous avez, de toute façon, en général, les gestionnaires proposent des garanties loyers impayés et dégradation. Mais vous pouvez aussi vous assurer en tant que particulier, auprès de compagnies d'assurance, etc. Ça ne règle pas forcément beaucoup plus le problème. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est d'ailleurs ce que je fais moi-même et ce que je conseille à mes clients, c'est de passer quand même, de toute façon, ne serait-ce que par rapport à ce qu'on vient de voir. Et du fait aussi que les honoraires de gestionnaire, 5-6%, sont déductibles.
C'est donc, ça, combien ça coûte, c'est voilà, quand même important.
Voilà, donc ça coûte autour de 5-6% de vos loyers, donc pour rémunération de votre gestionnaire, mais ces frais sont déductibles, donc ils viennent en déduction de vos revenus fonciers. Donc en définitive, vous ne payez même pas ça, vous payez, ça vous coûte réellement, suivant votre tranche d'imposition, 2-3%. Donc pour 2-3%, ne serait-ce que par rapport aux responsabilités, moi je conseillerais toujours un gestionnaire. Mais...
Il faut être derrière quand même.
Mais, voilà. C'est ça qui est important. Moi, ce que je conseille aussi, ce que j'applique, ce que je m'applique à moi-même, c'est qu'il faut manager votre gestionnaire. C'est-à-dire que votre gestionnaire, il va avoir en moyenne 200, 250...
300,
400 lots. 400, non, c'est quand même un peu compliqué. Mais disons, il va avoir en moyenne 200 lots à gérer. Donc, il faut manager votre gestionnaire. Le manager en se rappelant régulièrement à son bon souvenir, effectivement, prendre des nouvelles de sa santé, mais surtout de vos affaires. Et puis, régulièrement, le challenger, par exemple, passer avec lui, être présent avec lui lors d'une réception de chantier, voir s'il a les mêmes exigences que vous en termes de finition, etc. Et puis, il y a des moments aussi où il faut savoir, et là, je le dis très, très nettement, reprendre la main par rapport à votre gestionnaire. Notamment, si vous commencez à avoir des problèmes d'impayés, alors certains gestionnaires vont faire les choses, vont aller voir le locataire, etc. Mais bon, en général, quand même, soyons clairs, un gestionnaire, il va surtout envoyer des recommandés. Bon,
c'est ça. Voilà. Il se déplacera que si c'est nécessaire.
Plus ou moins, vraiment, si c'est nécessaire. Bon.
Moi, en gros, il faut être un propriétaire un peu chiant, quoi.
Oui, il faut être un peu chiant, oui, oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Vous avez raison,
Charlotte. Il faut se rappeler à son...
Oui, tout à fait. Son
gestionnaire.
Notamment reprendre la main, parce que parfois, il vaut mieux aller parler les yeux dans les yeux avec son locataire, parfois abandonner une partie de la créance pour peu que le locataire parte tout de suite. Ça, je l'ai fait aussi 100 fois. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à avoir des difficultés d'aller le voir et lui dire, écoutez, vous me devez 2 mois de loyer... Je vous en fais cadeau à condition que vous soyez parti la semaine prochaine.
C'est légal.
Ben non, parce que justement, le gestionnaire ne va pas pouvoir faire ça, entre guillemets.
Oui.
C'est-à-dire que, bon, voilà, il va
là
pas.
Là où le propriétaire va pouvoir s'arranger avec son locataire.
Et surtout prendre la responsabilité d'abandonner 2 mois de loyer. Mmh. Le gestionnaire, il va dire, ben non, on va vous poursuivre pour ces 2 mois de loyer jusqu'à la fin des temps, etc. Et ça va durer 2 ans, et puis on va perdre du temps, de l'énergie, de l'huissier, de l'argent et compagnie. Parfois, il vaut mieux régler le problème soi-même, les yeux dans les yeux avec son locataire. Faire un geste envers lui, il peut avoir de vraies difficultés. Puis on s'aperçoit que parfois les gens ont des solutions de logement chez leurs parents, chez des amis, pour un retour à meilleure fortune. Donc parfois, il faut reprendre la main.
Et puis ça leur évite de finir la tête sous l'eau aussi.
Bah,
c'est-à-dire que vaut mieux partir avec 2 mois vous fait cadeau quand
bien
vous
sûr.
Êtes dans une impasse,
bien
plutôt
sûr.
Que de vous retrouver avec 1 an de loyer impayé.
Voilà, parce que quand vous arrivez à 5-6 mois de retard, vous savez très bien que vous ne pourrez jamais payer. Donc voilà, vous faites jouer tous les mécanismes en votre faveur, ils sont très nombreux et vous pouvez rester encore des mois, voire des années, a fortiori si vous avez des enfants, etc. Donc là, bah, au final, c'est pas forcément extraordinaire. Donc bon, voilà. Donc parfois, il faut reprendre la main. Un autre cas où il faut reprendre la main aussi, ça qui arrive aussi très régulièrement, c'est que vous avez un locataire en place. Bon, il commence à avoir des difficultés de paiement et d'un seul coup, il disparaît.
Voilà. C'est ce qu'on appelle un départ à la cloche de bois.
C'est ce qu'on appelle, effectivement, voilà, bien connu des bailleurs, tous les bailleurs ou presque l'ont connu dans leur vie de bailleur, le départ à la cloche de bois. C'est-à-dire que le locataire s'en va, il ne résilie pas son bail, surtout c'est ça le problème, et bah, il n'est plus là. On voit bien, quand on regarde que les meubles ne sont plus là, qu'il y a une tonne de courrier dans la boîte aux lettres.
Des fois, vous rentrez, les meubles sont toujours
oui,
là. C'est-à-dire
oui,
que la
oui.
personne est carrément partie
oui.
juste
alors
avec
là,
son baluchon.
Oui,
et là, il faut pour le gestionnaire ou pour le propriétaire faire vider
oui.
le lieu. Ça
oui,
va
tout
coûter
fait.
Aussi de l'argent.
Oui, tout à fait. Mais là, faire vider les lieux, c'est quand on a fini la procédure. Parce que la procédure
ou
légale...
Mettre en garde le meuble.
Voilà, la procédure... ça, c'est au bout de 2 ans, en gros. Parce que la procédure légale, on la connaît. Et ce qui est surtout assez drôle, c'est qu'elle a été simplifiée il y a quelques années. Mais la simplification aujourd'hui pour un départ à la cloche de bois, c'est 7 étapes. Donc je ne vais pas toutes vous les lire parce qu'on va s'endormir et puis on va carrément dépasser le temps imparti. Mais notamment, je voulais juste la deuxième. Accrochez-vous bien, Charlotte.
Je m'accroche.
Vous la connaissez peut-être. La deuxième étape dans un départ à la cloche de bois pour un bailleur, vous devez fournir, vous particulier, la preuve que votre locataire ne s'est pas marié ou paxé depuis qu'il est rentré dans les lieux.
Sinon, voilà. le droit se poursuit sur le
conjoint.
Sinon,
le pacsé a les mêmes droits que lui. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez un locataire qui est parti, vous ne savez pas où il est.
Ouais.
Et comment vous faites pour prouver qu'il ne s'est pas pacsé entre-temps? Et vous devez apporter la preuve.
Donc, la charge de la preuve civil, est pour le propriétaire.
Pour le propriétaire.
D'accord.
Donc, bon, c'est les sept étapes, franchement, avec...
Si vous avez des questions, parce qu'effectivement, on n'aura pas le temps de les aborder le temps presse, et c'est un sujet ô combien intéressant, encore une fois. Si vous avez des questions sur ces sept étapes, écrivez-nous à la Maison de l'Investisseur.
Ouais.
Stéphane se fera une joie de vous les rappeler. Écoutez, malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. Le mot de la fin, Stéphane, très, très brièvement.
Le mot de la fin, oui, il faut prendre un gestionnaire, ne serait-ce que par rapport à la responsabilité. Ça tombe sous le sens quand on n'est pas sur place et qu'on a peu de temps et qu'on n'est pas super pro, paperasse. Mais il faut quand même mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, manager son gestionnaire et parfois reprendre la main lorsqu'on tombe notamment sur des trucs kafkaïens comme un départ à la cloche de bois. Il faut reprendre la main parce que votre gestionnaire, il va être coincé, entre guillemets, dans des procédures qu'il devra appliquer et qui sont parfois délirantes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter la loi, mais parfois, effectivement, ce qu'un particulier pourra faire, un gestionnaire ne pourra pas le faire. Donc, dans ces cas-là...
On se donne la main. De toute façon, vaut mieux en prendre un, puisque je peux le déduire de mes revenus fonciers. Et ça me couvre quand même certaines choses,
notamment.
Mais il faut que je sois derrière.
Il faut quand même être derrière et parfois reprendre la main pour ne pas tomber dans un délire de procédures, effectivement, qui n'en finissent pas.
Eh bien, super. Merci beaucoup, Stéphane. On compte sur vous pour le prochain numéro de la Maison de l'Investisseur. On ne tisse pas le sujet pour l'instant. On vous laisse mariner. À très bientôt sur Radio Immo.
La Maison de l'Investisseur. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et toutes les plateformes de streaming.